En effet, l'objectif que je souhaite atteindre au moins un peu dans cette présentation est le suivant, essayer de comprendre quelle signification pour un philosophe iranien du XVIIe siècle, de notre ère, Mulla Sadra, le djihad pouvait-il avoir. Le djihad est une, je ne traduis pas pour le moment, est une obligation canonique, pourrait-on dire, en islam, fait partie des obligations de la foi, et donc il serait vain de l'extraire artificiellement des obligations majeures. Tout musulman est par essence un mujahid, c'est-à-dire un praticien du djihad, et doit absolument combattre les ennemis de Dieu et du prophète. Ce point est une évidence pour tous, y compris pour les chiites qui sont désormais dominants, désormais, enfin, pour peu, depuis peu, dominants en Iran, en Perse, au XVIIe siècle. Je veux dire par là que, contrairement à des images trop souvent reçues, le monde iranien, qui comprend non seulement la Perse, l'actuel Afghanistan, mais, il faut s'en souvenir, une partie, une grande partie du sous-continent indien, ça nous conduit quasiment aux limites extrême-orientales du monde persanophone de l'Inde, bien donc dans ce vaste, ces vastes terres iraniennes, c'est de langue persane majoritairement, le chiisme, quoique présent depuis les origines de l'islam quasiment, n'est devenu dominant que par la naissance d'un État, au sens presque moderne du terme, l'État safavide, au tout début du XVIe siècle. Donc même, et j'ai presque envie de dire surtout pour des chiites, le djihad est une obligation majeure, au même titre que la prière, l'aumône, le pèlerinage et le jeûne. Alors, bon, Mulla Sadra, qui est un philosophe qui est mort probablement en 1640, certains pensent 1635, enfin un homme donc qui a illustré de la façon la plus éclatante l'essor philosophique et théologique et mystique dans l'espace de la religion chiite. En Iran, pour quelqu'un comme Mulla Sadra, la thématique du djihad n'est pas d'abord celle d'un combat guerrier au sens où l'on entend ordinairement ce terme. Alors, il emploie une expression qui est tirée d'un hadith probablement faux. Enfin, je suppose qu'il y en ait qui soient vrais, enfin, je ne suis pas du tout, je ne tiens pas à dire quels sont les hadiths qui sont vrais et qui sont attribués au prophète. En tout cas, parmi tous ceux qui sont attribués au prophète, et qui sont des milliers et des milliers, ce hadith ne passe pas, en règle générale, pour particulièrement solide. Mais il a eu cependant un retentissement tout à fait considérable chez les mystiques, chez les spirituels, chez les philosophes et d'autres formes d'ailleurs de théologiens. Mohammed aurait dit à ses compagnons, nous nous en retournons aujourd'hui du petit djihad, du djihad mineur, pour nous consacrer désormais au djihad majeur, au plus grand djihad, le combat dans nos âmes, de nos âmes. Et cette phrase a été commentée un très grand nombre de fois, elle oppose deux jihads, enfin elle n'oppose pas, elle hiérarchise deux jihads, un combat, traduisons ainsi pour l'instant, mineur, innaissant, enfin de petite importance, ne veut pas dire qu'il ne soit pas important, celui par lequel les musulmans exterminent leurs ennemis, et un deuxième combat, lui de beaucoup plus grande importance, le combat par lequel les musulmans s'exterminent eux-mêmes. Je vais revenir sur cette formule. C'est-à-dire se prennent eux-mêmes pour cible, prennent pour cible leurs âmes. Donc un combat tourné vers l'ennemi extérieur, un combat tourné vers l'ennemi intérieur. Et ce que semble dire le prophète, c'est que le combat contre l'ennemi intérieur est plus important que le combat contre l'ennemi extérieur, bien que celui-ci soit évidemment une obligation et une nécessité. Alors, pour Moulla Sadra, ceci permet de concevoir toute sa philosophie morale, sa philosophie éthique. Il s'agit en effet, considérer que notre intelligence, je dirais l'intellect humain, c'est-à-dire l'âme rationnelle, a deux missions dans son perfectionnement de soi. La première mission, la plus fondamentale, consiste à progresser vers la contemplation et la vie contemplative. Nous n'en parlerons pas précisément parce que la contemplation et la vie contemplative ne relèvent pas de la dimension du combat, mais relèvent des catégories que sont l'unification avec l'intellect divin, l'assimilation à Dieu, le mot d'ordre de la vie contemplative, qui est emprunté par notre philosophe à la suite de bien d'autres à un apophthegme de Platon, c'est « il faut s'assimiler à Dieu, se rendre semblable à Dieu dans la mesure du possible ». Mais en dehors de cette mission que l'intellect humain reçoit de Dieu, s'assimiler à lui, il y a une mission qui consiste à être au combat. Notre intellect est au combat parce qu'il doit conduire une purification morale qui est un combat contre soi, qui consiste à porter attention à ses défauts, aux défauts et aux excès de l'âme. La vie morale est une correction des mœurs. Il s'agit en particulier d'éviter que triomphent les influences de l'âme inférieure, de notre âme inférieure, de l'âme animale, sur les décisions pratiques. Alors, purifier l'âme, nettoyer l'âme de ses souillures, restituer l'âme à son innocence, combattre ses errements, tout cet ensemble de purification et de correction consiste, chez Moulla Sadra, en un ensemble de vertus militantes. L'intellect n'est pas seulement le guide vigilant des conduites, il devient le chef d'une armée en guerre contre une autre armée dont le chef est nommé l'ignorance. Donc dans la lutte bien compréhensible d'ailleurs de l'intellect contre l'ignorance, il ne faut pas voir le fait de dissiper les ténèbres par l'essor des lumières, par un geste pacifique, il s'agit de voir vraiment l'issue d'un combat. Il y a deux armées, deux chefs, on va voir comment c'est conçu, et une guerre. Et ce combat de l'intellect contre l'ignorance, c'est aussi le combat des forces du bien, le parti de Dieu, Hezbollah, contre les forces du mal, le parti du démon, Hezb Shaitan. Alors vous voyez à quel point ces termes ont un retentissement à la fois politique, religieux et spirituel. Hezbollah, avant de devenir aujourd'hui le nom d'un parti politique dominant et d'une milice, une milice extrêmement importante, c'est un terme évidemment coranique, et c'est un terme coranique qui, pour nos chiites, désigne les forces de l'intellect, c'est-à-dire l'ensemble des vertus et des pouvoirs qui préviennent l'avancée dramatique de l'ignorance. Cette thématique est proprement chiite, et elle a une très grande importance parce que le combat entre le Hezbollah, le parti de Dieu, et le Hezb Shaitan, le parti du démon, non seulement ne cesse pas avec l'apparition de l'islam, mais il s'intensifie, devient de plus en plus violent jusqu'à la fin des temps, et en particulier jusqu'au temps immédiatement antérieur à l'époque, au temps à venir du jugement de tous les hommes, de toutes les créatures même, prélude lui-même de la fin complète du temps, je veux dire le temps de la parousie du 12e imam, El Mahdi, le Mahdi, qui est présent en ce monde à l'heure actuelle et au temps de Mullah Sadra, qui est le véritable souverain du temps, mais qui est un souverain caché, occulté, dont la manifestation sonnera, pourrait-on dire, le retour au jihad militaire. Donc la période de l'occultation de l'imam, c'est un acte, comme vous le savez, dogme capital du chiisme imamite, que le 12e des imams, qui sont les autorités légitimes après la mort du prophète, est entré en occultation au milieu du 10e siècle, et que le temps que nous vivons entre cette occultation et son retour, ou sa parousie, sa réapparition, est un temps dans lequel le souverain légitime est non seulement vivant, présent, mais caché. Et donc, toute la question est de savoir, sort de notre sujet, qui le représente éventuellement, ou s'il n'a pas de représentant, et que deviennent les obligations de l'islam pendant son occultation. Alors, pour quelqu'un comme Mullah Sadra, et comme à peu près tous les autres théologiens de son temps, l'obligation du jihad, au fond, se scinde. Et c'est à cela que sert le fameux hadith attribué à Mahomet. Le jihad mineur, le combat militaire contre les ennemis de Dieu, contre le Hezb Shaitan, le parti de Satan, reprendra tous ses droits au moment de la parousie de l'imam caché. Lorsque l'imam se manifestera en pleine lumière, ça c'est la croyance commune. Je vais tout de suite dire comment notre auteur l'interprète. Lorsque l'imam apparaîtra en pleine lumière, il appellera à lui les troupes d'anges, voilà, les légions d'anges que Jésus n'a pas appelées, lui il va les appeler. Le premier à venir le soutenir, c'est Jésus, d'ailleurs, qui, lui, est toujours vivant, est toujours présent, mais non pas sur la terre, mais dans les cieux, à la suite de son ascension. Donc, l'imam appelant les amis de Dieu à la rescousse, Jésus descend, vient avec d'ailleurs tous ses adeptes, tous ses fidèles. Les chiites dignes de ce nom se rassemblent autour de l'imam, les anges viennent le soutenir et commencent des combats terribles entre l'antéchrist, l'imposteur et les troupes de l'imam. Alors il y a toute une série de phases de défaites et de victoires, mais tout s'achève pour le mieux. Le 12e imam écrase définitivement l'imposteur. Ceux qui n'étaient pas convertis, et en particulier Jésus, deviennent musulmans. Et Jésus, comme le 12e imam, vont pouvoir enfin connaître la mort ce qui est la nécessité pour connaître la vie. Je rappelle que toute âme doit mourir, et donc parmi les bienfaits qui adviendront à Jésus l'avenir, dans le futur, il y a qu'il connaîtra les trois biens qu'il n'a pas pour l'instant, avec tous les bienfaits qu'il veut. Premièrement, il sera musulman, deuxièmement, il mourra, et entre-temps, il aura fondé une famille, et il vivra comme tout le monde. Et à partir de là, il entrera dans le cycle de l'intercession qui conduit évidemment au règne définitif des saints et à l'écrasement définitif des démons. Mais ce combat du mardi a été interprété par Moulla Sadra d'une manière tout à fait étrange et qui en atténue, voire en anéantit la dimension militaire. En commentant un hadith très, très riche, venu d'un des imams, Moulla Sadra essaye d'expliquer le fait suivant qui est annoncé par l'imam. Je crois que c'est un hadith du cinquième imam, Mohammed al-Bakir. L'imam dit que lorsque le Mahdi, deuxième imam, réapparaîtra, Dieu saisira entre ses mains, avec l'aide des anges d'ailleurs, tous les intellects humains et il les placera, au fond, sous son autorité. Alors, comment comprendre cette saisie des intellects humains? Moulla Sadra comprend la chose de la manière suivante. Au moment où le Mahdi viendra, l'ensemble des intellects humains seront placés dans une situation où le Mahdi, le deuxième imam, les saisira dans sa puissance intellective et les délivrera de la nécessité d'avoir un maître extérieur. Le moment de cette délivrance se caractérisera par le fait que tous les intellects humains, désormais, seront à l'image et à l'égal de l'intellect du résurrecteur, du Mahdi. Ce seront des intellects capables, par eux-mêmes, de s'unir avec l'intelligence divine, de contempler la vérité. Ils n'auront plus besoin d'un maître extérieur, ils jouiront tous d'un maître intérieur, d'un messager intérieur. Jusque-là, l'humanité a toujours eu besoin de messagers et de guides extérieurs. Les prophètes, les envoyés de Dieu, porteurs comme Mahomet, d'une législation, ou bien même les imams, qui sont des guides de l'ensemble de leur communauté. Tandis que grâce à l'acte eschatologique du Mahdi, eh bien, tous les intellects humains recevront la lumière depuis leur propre intériorité. Et donc tous les hommes, pour parler clair, connaîtront une intellection parfaite, une assimilation parfaite à Dieu et une divinisation. Le terme de la déification, de la divinisation, qui joue un si grand rôle dans la littérature, là je dis comme ça, me semble-t-il, chez certains auteurs chrétiens, médiévaux, est un terme que nous retrouvons ici. Mais la déification n'est que le stade suprême de la connaissance et de l'unification à Dieu, mais qui sera apporté à la fin des temps à l'ensemble des hommes. Donc le combat du Mahdi final est en réalité un combat spirituel qui vise à libérer enfin les hommes de leur chaîne, tous les hommes cessant d'être des esclaves ou des serviteurs de Dieu pour devenir pleinement divinisés et assimilés à Dieu et à l'intellect qui est la première émanation de Dieu et que notre auteur par ailleurs assimile au Logos. Dans des proximités théologiques très intéressantes avec certains thèmes origénistes, je ne veux pas insister là-dessus. Donc, même touchant le combat mineur, le djihad mineur, militaire, notre auteur parvient à intérioriser et à spiritualiser la notion même de combat. Mais alors, c'est d'autant plus vrai pour la période qui nous sépare de l'eschatone, de la fin des temps, et où nous sommes aujourd'hui, le combat essentiel contre le parti des démons, c'est le combat majeur, pour le djihad majeur, c'est-à-dire le combat moral ou le combat spirituel. Mais ça ne signifie pas que ce combat perde de sa violence. Bien au contraire, la morale, la vie morale, reprend ou reproduit en elle tout ce que la spiritualité et la politique chiite portent de belliqueux. La spiritualité et la politique chiite ont une destination commune dans une guerre perpétuelle, qui se déroule sur un plan métaphysique, sur un plan historique, j'en ai dit deux mots, et sur un plan éthique. C'est une religion de la guerre, le chiisme. Même si le chiisme a eu une pratique inévitablement pacifique pendant des siècles, étant donné le triomphe de ses ennemis, le chiisme est né d'une déclaration de guerre. D'ailleurs, déclaration de guerre dont les chiites font porter la responsabilité aux usurpateurs, que sont les premiers califes, Abou Bakr, Omar et Othman. Tout part évidemment d'une usurpation, à la fois religieuse, politique, spirituelle, de la persécution subie par Fatima, la fille du prophète, bref, par le triomphe des ennemis du prophète et de sa famille, après la mort de Mohammed. Et cette situation de guerre anime en permanence l'âme du chiisme. On peut même dire que la théologie du chiisme, qui s'accomplit et s'intériorise chez Moulla Sadra, est fondée sur un schème dualiste fondamental, celui qui oppose en conflit les amis de Dieu, c'est-à-dire les amis des imams, et les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les ennemis des imams. Le grand partage entre Hezbollah, parti de Dieu, et parti des ennemis de Dieu, c'est le partage entre amis de l'imam et amis ennemis de l'imam. Alors, je suis obligé de faire une petite parenthèse pour rappeler que pour les chiites, le parti des amis de Dieu est protéiforme, multiple, car il y a des chiites à tous les âges, selon eux. Par exemple, dans les textes même de Moulla Sadra, vous rencontrez l'expression des chiites de Platon. Platon étant lui-même l'imam des Grecs, qui considère que les anciens Grecs, c'est-à-dire les vrais philosophes, avec à leur tête Platon, forme un parti, Shia, qui a exactement les mêmes intentions que le parti de Dieu représenté par les fidèles de Ali ibn Abi Talib. Il y a bien entendu, ça explique d'ailleurs bien des alliances entre chrétiens et chiites à un certain moment, il y a bien sûr plus de proximité entre un fidèle chrétien spirituel et un chiite spirituel qu'entre un chiite et un sunnite. Surtout un sunnite littéraliste. Mais il y a énormément de proximité entre un sunnite spirituel et un philosophe chiite, ce qui explique par exemple que notre Moulla Sadra s'appuie massivement sur un très grand nombre d'auteurs sunnites, Ibn Arabi, Al-Razali, Semnani, enfin un très très grand nombre, pas les énumérer, qu'il adopte, qu'il place sous la coupole des amis de Dieu, parce que ce sont des spirituels, tandis qu'il considérera avec beaucoup de mépris des chiites nominaux qui sont, selon lui, des Ahl al-Hijab, des gens du voile, des crétins, des traites absolument les autorités officielles de l'islam chiite y passent, sont considérés comme des amis des démons, parce qu'ils ne possèdent pas la véritable spiritualité. Ils l'ont d'ailleurs bien rendu, puisqu'il y a eu quand même un takfir, c'est-à-dire une proclamation de son révélation prétendue de son impiété, avec sept motifs d'excommunication, si je puis dire, qui ont fait qu'il a quitté prudemment Ispahan un temps pour aller à Shiraz, et qu'au fond, il continue toujours à sentir le soufre. Donc, il faut bien voir que cette affaire des deux parties est extrêmement compliquée et se dessine selon différentes formes. Mais maintenant, je vais en venir alors au contenu du djihad spirituel lui-même. Le djihad spirituel, le combat spirituel, suppose d'abord que notre auteur définisse le djihad. Alors comment Mollah Sadra analyse-t-il et définit-il le djihad? Eh bien, le djihad, il le ramène à sa racine arabe, il exprime l'effort. El djihad, c'est el jahd, l'effort. Et c'est un effort de type spécial, c'est l'effort que l'on fait pour rechercher rapidement la perfection. Le djihadiste, si vous voulez, est un rapide. Tandis que ce qui s'oppose au djihad, c'est la lenteur, la paresse, le fait de se retenir. C'est une ancienne notion mystique, d'ailleurs, cette idée sur laquelle pratiquer le djihad, c'est accélérer sa démarche dans la quête de la perfection. Donc l'objectif du djihad n'est pas de tuer des gens, n'est même pas de détruire des adversaires extérieurs, c'est de détruire en soi, et je vais revenir à cette idée du combat contre soi, et en soi, de détruire toutes les forces de la lenteur. Il s'agit de faire effort pour se rapprocher au plus vite de la source de l'être et de la vérité, c'est-à-dire de Dieu, mais de Dieu considéré comme source de l'être. Il s'agit d'une hardiesse au combat, dans le combat que l'on mène contre tout ce qui, en soi-même, paralyse cette démarche, ce cheminement. Il ne s'agit donc pas d'un affrontement destiné à se procurer un pouvoir temporel, c'est une lutte menée par la pensée, par la parole ou par l'action, sans doute contre les ennemis de Dieu, mais en vue de se rendre plus hardiment, plus résolument et plus rapidement parfait. Alors, cette analyse du djihad n'est pas neuve. Mollah Sadra la reprend à son compte et elle explique d'ailleurs l'ambivalence du djihad. Je veux dire par là que entre le djihad mineur et le djihad majeur, il n'y a pas de séparation absolue. C'est le moins qu'on puisse dire. Celui qui combat les ennemis de Dieu, en lui ou hors de lui, qu'il s'agisse de ses propres vices, de ses propres faiblesses, ou qu'il s'agisse des associationnistes, comme on dit, ou des hérétiques, ou des hypocrites, bref, celui qui pratique le djihad le fait pour être plus rapidement parfait. Il est tourné vers soi. On ne tue pas l'ennemi pour débarrasser des reins, si j'ose dire, d'un individu infect. On le tue le plus rapidement possible et le plus souvent possible pour se rendre le plus rapidement parfait. Donc le témoignage, c'est-à-dire le martyr, hein, c'est comme en grec, en arabe, c'est le même mot, hein, le shahada, le témoignage, et le fait d'être un shahid, un martyr, témoigne dans le djihad mineur de cette rapidité pour aller vers Dieu. Alors, le très grand théologien sunnite, qui est un des sommets de la science islamique, El-Razali, a admirablement démontré cela par une accumulation de hadiths extrêmement parlants. Dans le djihad, ce que recherche celui qui va être un martyr, d'abord c'est le martyr, c'est-à-dire c'est le témoignage, témoigner de la vérité de Dieu à tout prix et au prix de sa mort éventuellement. Deuxièmement, c'est aller très vite vers Dieu. Alors, ça n'est pas une impatience, parce que l'impatience est un défaut, mais c'est une hardiesse. Ce dont témoigne le djihadiste, le mujahid, c'est d'une immense connaissance du monde tel qu'il est. Et ça, Mollah Sadra le partage. Il en parle abondamment. Ce bas monde ne vaut rien. Cette vie est illusoire, imaginaire. Non seulement les plaisirs que l'on prend ici-bas sont dérisoires, mais la vie elle-même y est dérisoire. Donc la seule vie qui compte, c'est la vie future, c'est la vie dernière, c'est celle que l'on a perpétuellement auprès de Dieu. Donc le djihadiste, j'ai envie de dire, oui, l'homme du djihad, sous quelque forme que ce soit, est un témoin de la vanité de ce bas monde, et il en témoigne en n'essayant pas de s'accrocher à cette vie. Car la faute morale, c'est de vouloir survivre. Et Mollah Sadra commente, mais on va voir dans quel terme spirituel, toute une série de hadiths, en particulier attribués à Mohammed, très importants, qui disent, je cite, « Mourez avant que vous ne mouriez ». Il faut mourir avant que de mourir, c'est-à-dire la mort volontaire l'emporte sur la mort naturelle. Alors évidemment, ça s'entend de manière ambivalente, ça s'entend de la mort spirituelle à ce bas monde, il s'agit de mourir à ce bas monde, mais ça s'entend aussi du fait de tenir la guenille, c'est vraiment tout le débat de chez Molière. Guenille, dites-vous, mon corps, oui, bon, ma guenille, j'y tiens. Bon, ben, le djihadiste ne tient pas la guenille qu'est son corps. Le corps est d'ores et déjà un cadavre, seule l'âme et l'esprit vivent de la lumière de Dieu, et donc le djihadiste, plus éclairé que l'homme qui s'accroche à cette vie immédiate, cette dunya, cherche la vie dernière à la khela. Alors tout ça, il le sait et il le prend dans sa définition. Prend dans sa définition. L'ennemi du djihad, c'est la lenteur. C'est la lenteur, c'est la paresse, c'est l'ensemble des ignorances et des imaginations qui nous font croire que la vie est belle. La vie ici-bas, dit-il, en s'appuyant sur pas mal de hadiths, n'est belle qu'à cause de la passion. Si nous n'étions pas sous la domination des passions, les choses telles qu'elles sont ne nous apparaîtraient pas si belles. D'où d'ailleurs le fait que si l'on pratique l'exercice spirituel qui consiste à nous débarrasser de manière impassible de toutes les perceptions qui nous viennent de nos désirs, concupiscence et autres, si on regarde les choses telles qu'elles sont, eh bien, elles nous apparaissent comme peu de choses. Il y a toute une reprise des exercices stoïciens et épicuriens pour perdre la peur de la mort, pour se débarrasser de la peur de la mort. Donc si on regarde réellement ce que sont pour nous nos enfants et nos parents, si on regarde réellement ce que sont les honneurs, les richesses et les pouvoirs, on arrive à montrer, à se démontrer qu'ils ne sont rien d'essentiel pour nous. Il y a un très vieil exercice, on a ça chez Sénèque, on a ça chez bien d'autres, on a même ça chez Lucrèce. Vous avez ça dans le Torah Verum, quand il se pour se débarrasser de l'amour. Alors, comment se débarrasser de l'amour? Ce sont des thèmes qu'on retrouve en Occident sans cesse, jusqu'à Boileau, jusqu'à toute une littérature du dépouillement des prestiges des objets du désir. Mais alors, le Mujahid, l'homme du djihad, opère cela au point de considérer qu'il faut dardard se presser d'aller vers l'akhira, non pas en se suicidant, mais en ne craignant pas la mort. Donc un des signes distinctifs du sage, c'est qu'il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort, non pas parce qu'il espère une vie meilleure, mais d'une part parce qu'il en a la certitude, aucune vie ne pouvant être aussi mauvaise que la vie de ce monde. Même le dévot qui n'est pas un sage, qui est un simple dévot ordinaire, aura une satisfaction au paradis qui certes ne peut pas combler complètement le désir du sage, mais qui sera toujours supérieur à la vie minable qu'on a en ce monde. Voilà. Minable, éphémère, dérisoire, voué à des plaisirs stupides, et dont on se repent toujours. Bon, se repent toujours. Alors ça, c'est tout à fait au cœur de sa vision. Mais, et c'est ça qui est important, le djihad n'est pas une affaire militaire, n'est pas une affaire de combat contre les ennemis extérieurs. Déjà, la définition et l'analyse que nous venons d'essayer d'en esquisser le démontrent. Car l'ignorance, c'est elle qui nous porte à la lenteur, à l'indolence, dans la quête d'un haut rang spirituel, dans l'ascension vers Dieu. C'est l'ignorance qui nous inspire de reculer, de fuir l'effort et le combat et le désir de demeurer à jamais sur la terre. C'est l'ignorance qui facilite ce qu'on peut appeler la philosophie de la survie. Et la plupart des hommes traduisent leur ignorance par le fait de souhaiter, de manière évidemment totalement illusoire, vivre éternellement ici-bas. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir aujourd'hui les thèmes transhumanistes, etc., s'accrocher à ce type de choses. C'est très passionnant. Mais alors, si c'est le cas, le champ de bataille n'est pas le champ de bataille militaire. La stratégie, dit-il, du djihad, il l'explique très bien, c'est l'affaire de ce qu'il appelle la gnose, l'irfan. Alors, en situant le djihad dans un combat spirituel, Mollah Sadra ne tourne pas le dos au combat militaire. Si vous voulez, il ne se situe pas dans une sorte de ou bien, où les maîtres spirituels dénonceraient le combat militaire. Ça, hélas, je n'ai jamais vu. Bien au contraire, plus ils sont spirituels, plus ils approuvent le djihad, parce qu'il s'agit d'aller se faire tuer. Et on a des exemples extraordinaires de maîtres spirituels. Par exemple, face aux Mongols, c'est Attar qui s'est retrouvé face aux Mongols, alors il a pris des pierres, il montait sur les murailles, il était sûr au moins de se faire tuer, de ne tuer personne. Mais ça, c'est un point d'ailleurs qui beaucoup. Il ne s'agit pas de tuer, il s'agit d'être tué. Et il jette des pierres sur les Mongols qui, évidemment, le percent de flèches. Donc c'est une conduite constante. Hallaj, qui est le plus grand des maîtres de la première époque du soufisme, à pratiquer le djihad majeur, ce que Massignon appelait la guerre sainte de l'islam arabe, sur lui, c'est-à-dire qu'il l'a appelé à sa propre mort. Tuez-moi, mes camarades, etc. C'est dans ma mort qu'est ma vie. Et il a poussé les choses jusqu'au point où sa condamnation et son martyr ont signifié le sommet du djihad spirituel, mais dans le sang. Donc il y a une compénétration du djihad, j'ai envie de dire sanglant, et du djihad spirituel. Cela dit, le djihad lui-même, désormais pour Mollah Sadra, et en attendant que le Mahdi vienne, c'est a pour lieu de combat, au champ de bataille, le cœur de l'homme. Alors ce point nous éclaire la situation même de l'homme au sein du djihad. L'âme humaine est doublement mobile pour Mollah Sadra. Elle est mobile d'abord parce qu'elle est animée d'un mouvement essentiel depuis notre naissance jusqu'à la vie dernière, et ce mouvement essentiel fait que nous sommes portés sans cesse à mourir et à renaître. Nous sommes d'abord une substance minérale, dit-il, et même d'abord nous ne sommes rien du tout. Il rappelle, c'est un exercice d'humilité d'ailleurs magnifique qu'il commande, qu'il faut toujours se souvenir qu'il y a des millions et des millions d'années, nous n'avons pas été. Nous sommes précédés d'un néant immémorial. Et quand nous commençons par être rien, quasiment rien. de la poussière. Donc nous commençons par de la poussière, mais nous progressons. Et ce mouvement de progrès intérieur de l'âme, progrès spirituel, doit conduire jusqu'à la perfection intellective. Mais d'autre part, nous sommes animés d'un mouvement alors beaucoup plus dangereux, car notre âme, lorsqu'elle est en proie à l'imagination, ne cesse, dit-il, d'aller et de venir entre deux armées, l'armée de l'intellect et l'armée de l'ignorance. L'armée des partisans de Dieu et l'armée des partisans du démon. Et nous sommes sans cesse attirés par les deux parties. Alors si notre cœur est dominé par les attributs sataniques de l'ignorance, écrit-il, alors l'armée du démon triomphe. Notre cœur, écrit-il, incline vers sa race, la troupe de l'oppression et de l'ignorance, le parti de l'errance, en se détournant de la troupe de la droite guidance, le parti de Dieu et des amis de la miséricorde, en apportant son aide aux ennemis de Dieu et aux amis du démon. Comme on le voit, l'enjeu du triomphe intérieur à l'âme du démon ou des forces angéliques de Dieu est considérable. J'ai envie de savoir si le parti du démon va recruter en nous un adepte supplémentaire, un adhérent, le mot d'adhérer à un parti. Est-ce qu'on adhère au parti de Satan ou est-ce qu'on va adhérer au parti de Dieu? Donc, dans toute cette période, la vie spirituelle, l'enseignement spirituel, la métaphysique elle-même, ont un enjeu très sérieux. Il s'agit de faire que les cœurs humains balancent du côté de Dieu et que l'armée de Dieu recrute, tandis que l'armée du démon cesse de recruter. En réalité, nous sommes une période qui prépare les temps eschatologiques et où, évidemment, chaque homme non seulement joue son salut dans ce combat intérieur, mais en plus ajoute ou retranche à l'armée de Dieu, et donc ajoute ou retranche à l'armée du Mahdi dans son combat final contre l'Antéchrist. Alors, le djihad se déroule au sein de l'homme entre deux régions. Il y a la région supérieure qui est en réalité la région la plus intérieure. Cette région la plus intérieure, c'est l'intellect. L'intellect est naturellement tourné vers le haut, vers le monde supérieur à la fois de l'homme et du cosmos, parce que c'est la partie entièrement immatérielle de notre âme. Il y a là une correspondance qu'il faut rapidement énoncer entre le cosmos et l'âme humaine. Pour nos auteurs, le cosmos est d'abord forme un tout très vaste, mais fini, et il a une zone inférieure et une zone supérieure. La zone inférieure est matérielle, c'est l'ensemble du monde sublunaire. Et la zone supérieure, c'est ce qui est au-dessus du neuvième ciel, de la neuvième sphère. C'est un monde hypercosmique, mais que ces gens voient comme s'il était là. Hein, bon. Et monde, certes, invisible, hypercosmique, supérieur et immatériel. Eh bien, l'homme reproduit cette topographie spirituelle. Il a en lui une dimension ténébreuse et terrestre, c'est son corps, le corps physique. Il a une dimension spirituelle correspondant au monde hypercosmique, c'est son intellect. Donc le combat va faire rage entre ces deux régions du cosmos, à l'intérieur même de l'homme, entre les deux régions de l'homme, vers lesquelles l'âme se tourne. quand notre âme se tourne vers l'intériorité, c'est comme si elle se tournait vers le ciel. Quand elle se tourne vers le monde extérieur, comme nous le faisons ici, c'est comme si elle se tournait vers le bas et vers les régions illusoires et terrestres. Je conclurai par la manière dont ce combat va se dérouler et sous quelle forme. Je cite, pour éclairer ce point très rapidement, deux enseignements que commente Mulla Sadra. J'y ai fait rapidement déjà allusion. Un premier enseignement vient d'un imam, l'imam Al-Reda, qui dit « L'ami de chaque homme est son intellect, son ennemi est l'ignorance. » Alors c'est un point qu'il faut souligner dans le jihad. Dans le jihad, et ici le jihad contre l'ignorance, c'est-à-dire le jihad intérieur et spirituel, on combat aussi l'infidélité. L'infidèle, ou l'incroyant, comme on voudra, el kafir, c'est d'abord celui qui est infidèle à soi, qui est l'ennemi de soi-même. Et donc, plus on est savant, plus on est connaissant, avec tout un programme d'études que là je ne peux pas énumérer, et plus on est vigilant à la pureté de son âme, plus on est l'ami de soi-même. L'intellect est l'ami de chaque homme. Donc dans ce combat, il y a d'abord une relation d'amitié de soi à soi. Mais quelle est la cible du combat? J'y faisais allusion tout à l'heure, c'est l'âme elle-même. L'âme est à la fois le champ de bataille et l'ennemi. En s'appuyant sur un propos attribué au prophète Muhammad, le pire de tes ennemis, c'est ton âme qui est en toi. Alors, il faudrait développer évidemment cette thématique très longtemps. J'en ai donné quelques jalons tout à l'heure en rappelant que le but du djihad, d'une certaine manière, c'est de hâter volontairement sa mort. Ça, c'est une thématique métaphysique qu'on rencontre très souvent chez Mulla Sadra et chez d'autres. Il s'agit non seulement de mourir à ce monde, et donc de traiter sa propre âme comme son propre ennemi, dans la mesure où notre âme désire. Il s'agit de supprimer absolument toute forme d'appétit. Il faut viser ce que certains des moines d'Orient appelaient l'impassibilité. On est vraiment dans l'élément de la pateia. C'est ça le but, pour elle. Donc, dans la pateia, dans l'impassibilité, dans l'apathie, l'âme disparaît à soi-même. Et dans cette disparition à soi, dans cet effacement de soi, le djihad spirituel trouve sa véritable finalité. Mais il s'agit aussi de hâter sa mort volontaire, tout simplement en détruisant, in fine, à la fin, tout ce par quoi on est séparé de Dieu. Et le stade suprême de la mystique, de la vie mystique, consiste, étrangement, en des phrases qui peuvent comme ça surprendre, il s'agit de couper la gorge à sa propre âme, il s'agit de... Il s'agit non seulement de s'anéantir en Dieu, mais de faire comme le mont Sinaï lorsque Moïse demande à Dieu de « Puis-je te voir ?» et il s'agit de tomber en poussière. Le mystique ressemble au mont Sinaï qui tombe en poussière lorsque la théophanie a lieu, qui est trop forte pour les hommes. Il s'agit, bref, de cesser de valoriser son ego. C'est pour ça que les principales vertus du jihad spirituel visent alors à perfectionner en nous notre âme, mais de manière paradoxale. Il s'agit de se soucier de soi afin de ne plus se soucier de soi. Il s'agit même de ne pas se soucier de son ascèse. Le véritable ascète est celui qui est au-delà de toutes les ascèses. Il s'agit de s'oublier le plus possible, de s'anéantir, de disparaître à soi-même en vue de connaître la déification de façon à remplacer notre nature humaine par la nature divine elle-même. Donc le djihad a une fin, si j'ose dire, très optimiste, car à travers cette vague de disparition à soi, dans le combat contre soi, on ouvre la porte à Dieu. Ce qui conduit à une conclusion paradoxale, mais suivra d'une ultime petite remarque, si vous le permettez. La voie de la liberté, pour Mullah Sadra, consiste dans la perception du fait que tous mes actes sont accomplis par Dieu. Non pas parce que je serai dominé par la volonté de Dieu et que je ne serai pas l'acteur libre de mes actes, mais parce que lorsque j'agis, j'agis par Dieu. Et il prend une forme de comparaison qui nous éclaire en disant « Ce n'est pas mon âme qui voit grâce à ma vue, c'est ma vue qui voit grâce à mon âme. » Mon âme n'a pas une vue, une ouïe, un odorat qui serait autant d'instruments. Et nous ne sommes pas, nous, les instruments de Dieu. Il n'y a pas un rapport d'employeur à employé, dit-il. C'est assez beau, n'est-ce pas ? On n'est pas là comme des agents employés par Dieu. C'est l'inverse. Toutes les fois que j'agis, j'agis par Dieu. Et ça ne veut d'ailleurs pas dire que Dieu est mon employé, mais qu'il est le moteur de mon acte. Donc, dit-il, lorsque X, il l'appelle Zaïd, fait quelque chose, il le fait vraiment, librement. Et cependant, il le fait par Dieu. Et donc, dans son acte, il y a un acte de Dieu, un acte de Zaïd. Et comprendre cette forme de liberté, cette justification de la liberté, suppose le djihad. Suppose que l'on ait compris qu'en soi, le moteur de toute chose, c'est Dieu. Donc s'effacer librement devant Dieu pour concevoir la propre puissance de l'homme en disant, comme le dit un hadith qu'adore citer notre auteur, « Je suis la vue par laquelle tu vois, c'est Dieu qui parle, je suis le pied par lequel tu marches, je suis l'ouïe par laquelle tu entends. » Donc la visée spirituelle est évidemment tout à fait décisive. Mais, deuxième et dernière petite conclusion, nous sommes à la fois la cible du djihad et le champ de bataille, et ce qui complique considérablement les choses, et ce sera mes derniers mots, parce que notre auteur insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas de nous détruire. Il s'agit de sauver l'âme. Dans le combat extérieur, ce qui le rend d'ailleurs mineur et on a envie de dire inessentiel, on tue l'ennemi et on pense avoir remporté la victoire. Le combat spirituel est beaucoup plus compliqué car il ne s'agit pas de tuer son âme. L'âme est bien notre ennemi parce qu'elle nous entraîne loin des considérations mystiques que nous avons rapidement évoquées, mais c'est l'âme qui a besoin d'être sauvée et entraînée et délivrée de la lenteur de ce cheminement qui la conduit vers Dieu. Donc il s'agit à la fois de la purifier, de la sanctionner et de la conserver. Voilà pourquoi je conclus que l'éthique de Mullah Sadra, que j'essaie de le démontrer par ailleurs, n'est pas une éthique de l'autodestruction, n'est pas non plus une éthique très proche de celle des stoïciens antiques où l'on sculpte sa statue, c'est une éthique de l'humilité et du renoncement. Les deux grands maîtres mots, c'est humilité et renoncement. Il s'agit de s'effacer, ce qui ne veut pas dire de se détruire, et il s'agit d'arriver à ce degré où je sais que tout ce que je fais librement, Dieu le fait nécessairement en moi, et tout ce que je fais nécessairement, Dieu le veut librement en moi. À partir de quoi la guerre n'est plus utile. Merci.